Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou alors aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Fabienne, bonjour.
Bonjour.
Et de Sébastien.
Ouais, bonjour Yves.
Bonjour tous deux, vous êtes donc en couple et vous êtes ici pour nous parler de vos préoccupations suite donc à cette loi sur le pass sanitaire qui a été pour une grande majorité confirmée par le Conseil constitutionnel. Vous êtes ici pour nous parler d'une problématique qui vous touche plus personnellement, je pourrais dire que pour moi aussi, c'est l'aspect d'être porteur de maladie et quel sentiment à avoir face à cette campagne de vaccination, d'autant qu'on pourrait craindre justement par réaction au vaccin une amplification de nos problèmes de santé actuellement. Voilà, et donc pour ça, on va aborder un petit peu les problématiques qui nous touchent. C'est le fait d'avoir accès aux espaces de soins.
Oui, c'est ça.
Je le rappelle, la condition actuelle avec cette loi, ça sera d'être conforme avec le pass sanitaire pour pouvoir accéder aux soins.
C'est des soins de longue durée en fait, c'est des maladies qui étaient prises en charge pendant de nombreuses années et qui depuis l'arrivée du corona ont été largement désavouées et aujourd'hui on a ce pass sanitaire qui carrément, alors moi boire un café, aller au cinéma c'est une chose, mais ne plus avoir accès aux soins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 5 millions de patients de l'hôpital de longue durée, qui passent beaucoup de temps à l'hôpital, qui voient beaucoup de spécialistes, ce qui est mon cas sur 5 pathologies extrêmement graves depuis plus de 25 ans. Donc c'est cet accès à l'hôpital qui est tout d'un coup qui nous est barré, sauf si on fait des tests PCR, qui pour moi est une intrusion dans mon corps. Et voilà, je commence comme ça peut-être.
Ouais. Oui, pour ma part, j'appréhende aussi fortement cette prospection du test PCR qui ne semble pas, d'une certaine douceur, je dirais déjà. Et puis après, ça serait une notification de tous les deux jours d'avoir un test négatif.
Ouais.
Donc, est-ce que par là, déjà, ça n'éveillerait pas une certaine irritation de la fosse nasale aussi?
C'est arrivé à certains. Il y a plusieurs cas qui ont été documentés de déviation de la cloison nasale, mais aussi de lésions en profondeur entre les sinus et la sortie intérieure des narines. Le problème aussi donc le pass sanitaire, il repose à la fois sur il repose sur deux voies, soit un test RT-PCR négatif, soit la vaccination. Le test RT-PCR négatif, il faut en faire un pour savoir s'il l'est. Parce qu'évidemment, s'il est positif, en suivant la loi, vous n'avez pas accès au café, au cinéma ou à l'hôpital. Et en ce qui concerne la vaccination, le problème qui me troue le cul, alors qu'on met en avant depuis des années le principe de précaution, on voit débarquer une thérapie relativement récente, thérapie préventive par la vaccination à base de bras d'ARN messager prélevés sur le génome du virus et réinjectés dans le corps de la personne pour stimuler ses défenses immunitaires. Il se fait que dans un article de 2020, début 2020, le Vidal, qui est un peu la bible des médecins, c'est lui qui édite le guide de pharmacologie, le Vidal dit texto, les vaccins ARN messagers, une science balbutiante. Donc en fait, on est en train de vacciner des centaines de millions de personnes. Je crois qu'on est à 20% de la population mondiale qui est aujourd'hui vaccinée. avec des techniques balbutiantes. Il faut savoir que l'ARN messager, les thérapies à base d'ARN messager, initialement, elles datent de 2008, donc c'est très très récent, et elles avaient été mises en œuvre, non pas du tout comme vaccin, mais vraiment comme thérapie génique, dans le but de tenter de guérir certaines formes de cancer. Donc ça fait 12 ans, et c'est toujours un semi-échec. C'est-à-dire qu'il y a un prof de Zurich qui dit « oui, associé à d'autres thérapies, ça fonctionne pas trop mal, bien ». Ensuite, ils ont tenté, à base d'ARN messager, de prévenir le virus de la rage. Échec. Ça, c'était en 2009. En ciblant une protéine qui s'appelle la protéine M, c'est une des protéines de surface du virus de la rage. Il y a eu d'autres essais qui ont un peu tous échoué aussi. Et en 2018, l'Union européenne a lancé un programme de recherche de vaccination à ARN messager pour la grippe. Et là, tout récemment, Moderna vient d'annoncer que son quadrivalent, donc qui touche quatre formes de grippe, par ARN messager, était prêt. Et Moderna envisage déjà de faire un cocktail grippe-corona. Donc les deux à la fois. La question qu'il faut voir, c'est, outre le fait que c'est une technique en phase d'essai, il faut remarquer que les autorisations de mise sur le marché sont conditionnelles, que les instances de l'Union européenne ont déchargé de toute responsabilité civile et pénale tant les laboratoires que les décideurs politiques qui imposent la vaccination, à demi-mot ou franchement. Donc ça ne prête pas à rassurer.
Juste, je voudrais intervenir. Ouais. Est-ce qu'il y a un responsable désigné pour cette campagne? Serait-ce qu'en France?
Oui, le monsieur vaccin en France, c'est Fischer. Qui, si je ne me trompe pas, est lui aussi un ancien du cabinet de Marisol Touraine, de même que Gabriel Attal et Olivier Véran. Voilà, le problème de confiance aussi, c'est de faire confiance dans la politique sanitaire de gens qui ont démoli depuis 15 ans l'hôpital public, qui privatisent une partie des soins en les externalisant, les hospitalisations à domicile, les soins ambulatoires, ou en fait des sociétés privées d'intermédiaires. On en a rencontré dans le cadre des soins de Fabienne, viennent s'insérer dans la boucle en proposant des kits de perfusion à des cabinets infirmiers privés pour injecter des produits en dehors de toute surveillance médicale à des dizaines de kilomètres dans nos stores en ce qui nous concerne. Donc ce sont ces gens-là à qui il faut faire confiance, qui ont démoli l'hôpital, qui ont supprimé 70 000 lits en 17 ans, qui ont encore supprimé 2 000 lits l'année dernière, en pleine pandémie, qui viennent là il y a 10 jours, de sucrer 800 millions de budget de l'hôpital pour filer 900 millions au ministère de l'Intérieur. Et c'est à eux qu'il faut faire confiance sur base de produits inconnus, aux effets quasiment inconnus, pour aller se faire vacciner. Et en particulier les gens qui ont des pathologies chroniques, voire dans le cas de Fabienne, une pathologie mais extrêmement rare, avec quelques centaines de cas documentés dans la littérature médicale en 70 ou 80 ans. La maladie de Goutte-Pasteur. Mais en fait, elle est où la balance bénéfice-risque individuelle? Qui peut nous la garantir?
Combien même risque considéré, même s'il est infime, est-ce qu'il y aurait aussi une prise en compte de cette part infime d'échecs probables? Et est-ce qu'il y a justement un soutien ou peut-être une assistance pour ces personnes qui seraient mises à l'écart par rapport à ce qu'ils portent en maladie?
Alors, du coup, moi, ce que je vois, c'est à l'hôpital un blocage complet. En fait, j'ai contacté, avant que la loi passe, trois de mes spécialistes, dont un vasculaire, parce que j'ai un caillot depuis 10 mois dans le bras. Il n'y a plus de bloc opératoire, pardon. Il n'y a plus de médecin. Les autres maladies sont plus prises en compte. On sait qu'on a aujourd'hui plus d'un an de retard sur les blocs opératoires, sur les opérations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cancers qui ne sont pas pris en compte. Aussi, on ne greffe plus. Depuis plus d'un an et demi, aujourd'hui, en France, on ne greffe plus. C'est incroyable, mais de toute façon, tous les soignants étaient, comme ils disaient, au front. Moi, j'ai toujours beaucoup de soutien pour mes soignants, énormément, même si je les ai vus... collaborer à un système destructeur. Je les ai vus me dire que nos traitements qu'on mettait à domicile, qu'on donnait au secteur privé, c'était pour notre bien. C'était pour justement plus prendre en compte nos besoins, d'être à la maison, auprès de notre famille, et blablabla, blablabla. Bla. Ce qu'on a vu, c'est en fait la vraie vérité qui est sortie un jour dans la bouche de mon infirmière, d'une de mes infirmières qui m'a dit « Fab, toi et ta dette, vous allez sortir de l'hôpital ». Ça, c'est devenu hyper clair. Et en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est quelque chose que je dénonce depuis très longtemps. J'ai été gilet jaune. Je me suis battue au front avec mes soignants. On s'est fait gazer, on s'est fait défoncer, on s'est fait maltraiter. On s'est fait traiter de toutes les pires choses que l'être humain pourrait être, alors qu'on est tout le contraire. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que nos médecins sont complètement... ils ont tous le gros badge « je me vaccine ». Et j'ai demandé des dérogations parce qu'il me semble que mes quatre pathologies qui aujourd'hui ne sont plus vraiment prises en charge suffisent au fait que j'ai envie d'attendre au moins 2023 pour voir et qu'ils aient aussi les résultats de tout. Parce que nous sommes des rats de cobayes au niveau mondial, c'est du jamais vu. Ainsi que, voilà, moi, ça m'inquiète énormément parce que l'accès à l'hôpital, c'est quelque chose les générations d'avant se sont battues. On voulait que tout le monde puisse avoir, ils voulaient que tout le monde puisse avoir accès à l'hôpital, qu'il soit pauvre ou pas, qu'il soit femme ou pas, qu'il soit enfant ou pas. En fait, c'était pour pas ressembler, par exemple, aux États-Unis ou à bien d'autres pays où aujourd'hui les gens meurent faute de soins et tout le monde s'en fout en fait. Donc là, c'est arrivé en France, c'est arrivé pendant le corona. On a parlé des non-soins pour le corona, mais on n'a pas parlé des non-soins pour les autres patients. Et il y a eu beaucoup de morts. Et aujourd'hui, avec ce pacte sanitaire, moi, je suis dans une vision où je me sens trahie, je me sens abusée. Je suis extrêmement en colère et en fait, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête les soins ? Qu'est-ce qu'on fait pour aller au bout de nos besoins, quoi?
Je reviens vers toi, Fabienne, justement, pour... tu disais qu'il n'y avait pas eu de discussion ou il n'y a pas eu d'information par rapport à ces non-soins. Ce que je voulais savoir... Est-ce que c'est ce sentiment-là de savoir que des personnes, comme tu dis, il y aurait 5 millions de personnes en maladie chronique, ne se sont pas senties soutenues depuis un an et demi avec cette invasion du Covid? Et c'est un sentiment qui est très partagé là-dessus.
Moi, dans le milieu où je baigne, en fait, dans ce milieu encore très militant, non, en fait, les gens sont exaspérés et ceux qui ont besoin de soins ont décidé de se battre. Il va y avoir des vidéos là bientôt à l'intérieur devant les hôpitaux pour voir comment les patients vont être accueillis, de quelle manière les non-vaccinés vont être accueillis à l'hôpital. Je pense que les actions aussi, je ne sais pas si on peut le dire, mais moi je vais le dire, on sera à Grenoble, je serai à Grenoble avec des amis le mardi 10 pour mes soins. J'ai donc rendez-vous avec ma spécialiste, ma néphrologue, et après j'ai un soin vital qui est le Bellatacet, dont j'ai été le cobaye. Donc c'est pour ça aussi, je ne suis pas une anti-vax, je ne suis pas... oui, on a été longtemps, on a essayé des médicaments pour nos vies, en fait, on s'est battu, mais là justement, nos vies, elles ont été bien plus attaquées par rapport au manque de soins à l'hôpital de nos maladies chroniques et pas par rapport au corona, puisqu'on est encore en vie, quoi.
Je voudrais dire qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans une posture anti-vax générale. Par exemple, le vaccin contre le tétanos, je trouve que c'est un vaccin formidable, qui a 100% d'efficacité. On fait un rappel tous les 10 ans et c'est très bien parce que le tétanos, il y en a partout. Et c'est une maladie sacrément effroyable. Mais et Fabienne se vaccine depuis des années régulièrement contre la grippe et le pneumocoque. Donc, c'est pas une posture anti-vaccinale du tout. Moi, en ce qui me concerne, outre l'accès à l'hôpital, c'est d'assister à une espèce de folie où on vaccine avec un produit en phase d'expérimentation des dizaines, centaines de millions de personnes en pleine pandémie. Et là, en fait, il y a un énorme problème au niveau, non pas de la balance bénéfice-risque individuelle, mais sur la stratégie vaccinale et son succès éventuel. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas que les... ou si on ne veut pas comprendre, pour des raisons peut-être que j'expliquerai après, que le virus, il faut le considérer d'une manière écosystémique, qu'en fracassant la souche initiale, celle pour laquelle les vaccins sont calibrés, en fait, on est en train de laisser de la place aux variants. Et l'exemple que je prends pour essayer d'expliquer ça, c'est on imagine une prairie où il y a des gazelles et des lapins. Si on tue les gazelles, les lapins vont proliférer. Et c'est exactement la même chose si on tape la souche initiale en ne s'occupant pas des variants. Et on ne peut pas faire les deux à la fois. On va favoriser l'expansion des variants parce que le virus, c'est la... les virus, c'est la clé de la vie, en fait. Ces petits trucs-là, leur ADN, quand c'est des virus à ADN, des adénovirus, des virus à ADN, donc pas comme le corona, composent entre 5 et 8% de notre propre génome. C'est-à-dire que notre génome d'être humain résulte de la recombinaison de matériel génétique viral et du matériel génétique de nos ancêtres primates, et puis avant ça, lémuriens ou que sais-je. On est en interaction permanente avec les virus. C'est les champions de la vie, quoi, en fait. Et on est en train de se jeter dessus comme des fous, sans réfléchir aux conséquences qui pourraient résulter d'une vaccination qui est à la fois massive et très très mal répartie. Parce qu'il y a des tas de pays qui n'ont de toute façon... Imaginons que le vaccin soit complètement inoffensif et parfaitement efficace. Mais en fait, le problème, c'est que, vu les échanges internationaux pour maintenir en ordre de fonctionnement les chaînes d'approvisionnement super complexes qui conditionnent nos vies, il y a des populations partout dans le monde qui n'ont pas accès au vaccin. Donc inévitablement, il va y avoir de nouveau des brassages et des recombinaisons virales. Coronavirus, il mute assez peu, mais il varie énormément par recombinaison. C'est un peu c'est sa marque de fabrique. Ça déjà, c'est un énorme problème. Et un autre problème d'importance, c'est... pourquoi est-ce que je dis tout à l'heure, en fait, que il pourrait y avoir d'autres enjeux derrière ces campagnes de vaccination. Moi, la campagne de vaccination actuelle, je la lie complètement à la destruction d'une offre de soins hospitalière. C'est-à-dire qu'en fait, un traitement, quel qu'il soit, un traitement curatif, est nécessairement plus cher qu'une vaccination. Si on prend par exemple le prix de la dose de Pfizer-BioNTech, à peu près 20 balles, parce qu'ils viennent d'augmenter leur prix en plus, ça, c'est saligo. Et la Commission européenne suit, ok, bon, augmente ton prix. 20 balles, ben 20 balles, c'est 3 euros de moins qu'une consultation chez le toubib, qui n'a encore rien prescrit, on n'a pas encore facturé la molécule, les traitements, les éventuelles hospitalisations, que sais-je. C'est déjà moins cher. L'autre élément, et ça dans un cadre où on détruit l'hôpital, et l'autre élément qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, des milliards d'euros et de dollars sont partis pour soutenir la recherche des vaccins ARN messager, acide ribonucléique messager, et pratiquement rien sur la recherche de traitement curatif. Et là, il y a plusieurs exemples. Il y a l'énorme plantage de l'essai Discovery. Il y a l'échec, mais bon, ça c'est un échec parce que la molécule n'a pas fonctionné, du Remdesivir en Allemagne, qui a été un peu soutenu quand même par les pouvoirs publics en termes financiers, et l'échec de l'ivermectine. Hors de ça, je connais rien d'autre où en fait on a mis beaucoup de fric public pour soutenir la recherche de traitement. Parce que de toute façon, ils savent que c'est plus cher qu'une vaccination. Et j'ai un exemple, c'est Donc on voit bien, je ne fais pas de l'anti-Big Pharma, c'est un laboratoire pharmaceutique espagnol qui est en train de faire des essais avec une molécule qui s'appelle le plibidepsine. Et cette molécule, elle donne de super résultats, elle a donné des bons résultats in vitro pour faire baisser la charge virale. Elle a donné des bons résultats, bon in vitro, on fait un peu ce qu'on veut. Elle a donné des bons résultats in vivo sur des rats. Et en fait, ça c'était en janvier 2021. Et depuis, ils demandent des autorisations de mener des essais de phase 3. Et le financement qui va avec. Parce que c'est sûr que quand on veut tester un médoc sur un panel de 10 à 20 000 personnes, ça coûte une blinde. Et des labos ne peuvent pas se payer ça. Tout le monde ne s'appelle pas Pfizer, Moderna. C'est sans réponse. Le truc est prometteur. La molécule est déjà connue parce qu'elle servait à autre chose. Ça arrive qu'on bascule une molécule vers une autre. Il faut faire ça prudemment parce qu'on a quand même le cas encore en tête du médiator qui est passé en coupe fin et qui a fait les dégâts qu'on connaît. Mais rien. Parce que le but, la volonté sous-jacente, c'est faire des économies de fric sur la sécurité sociale. Et ce que je garantis, c'est que d'ici un an ou deux, on va nous annoncer que la sécurité sociale doit être réformée parce qu'elle n'a pas tenu le choc face à la crise du coronavirus. Et donc, on va faire rentrer, comme le prévoit déjà le plan Ma Santé 2022, comme le prévoit la loi Parcours de soins de santé et de vie, on va faire rentrer les assureurs privés dans la boucle et on va basculer les cotisations sociales, ce qui est notre salaire socialisé. On va l'amputer pour nous demander, on va nous le donner en net, et on dira, avec ça, tu vas aller te payer une assurance privée. Et les 100 balles qu'on va gagner sur notre fiche de salaire, on va se rendre compte qu'il va falloir en sortir 130, parce qu'il faut assurer le bénéfice des assureurs pour être couvert.
Je reviens vers vous, Fabienne. Tout à l'heure, vous parliez d'une infirmière qui vous avait sorti ce propos. Toi et ta dette sortiront de l'hôpital, c'est ça ?
Alors, il faut savoir que j'ai été le cobaye d'un médicament qui s'appelle le Belatacept. C'est un médicament anti-rejet qui a maintenant 3 ans à peu près. Il faut revenir un peu en arrière. Je suis à ma deuxième greffe de rein. J'ai eu ma deuxième greffe de rein il y a environ 6 ans et je fais un rejet immédiat systémique. C'est le système qui attaque l'organe transplanté. Donc ça m'est arrivé et d'un tout nouvel organe tout propre après 5 ans et demi de dialyse quand même. 3 mois après, j'avais un organe extrêmement abîmé avec la créatinine, c'est la fonction rénale. Beaucoup de gens savent pas ce que c'est, mais ça dit que les reins travaillent ou pas. Moi, ma fonction rénale était remontée à un point où je devais retourner en dialyse. Et là, j'ai ma spécialiste qui me suit depuis 25 ans, qui m'a fait rentrer dans un protocole d'essai. C'est ce traitement-là, le Belatacept. Et la Sécurité sociale refusait évidemment de le rembourser. Donc, c'est l'hôpital de Grenoble qui a fait les tests et qui a payé l'essai, qui a payé le traitement pour que je puisse en bénéficier et qu'on soit 200 patients environ à l'hôpital de Grenoble qui ont fait les essais du Belatacept.
Et cet essai, pour vous, qu'en est le résultat ?
Il est incroyable. C'est-à-dire, j'ai retrouvé une fonction rénale du début de la greffe. Donc, j'ai été le cobaye de ce médicament pendant 2 ans à l'hôpital. Et puis un jour, on m'a dit que la phase d'essai était terminée et que, ce qu'on avait vu sur tous les patients, que ce médicament était incroyable et qu'il fallait le mettre sur le marché. Sauf que la Sécurité sociale n'était pas d'accord avec ceci et a pris des dispositions, comme la rétrocession ou la mise à domicile d'office pour les soins, des soins qui se font sur fistule. Donc la fistule, c'est une artère, qui est faite, c'est un branchement d'une artère à une veine dans le bras. Et c'est par là qu'ils nous dialysent, Donc on a 2 aiguilles, une pour la sortie du sang et une pour la rentrée. Et tout ça passe dans une machine qui nettoie environ 40 fois le sang en 4 heures. Donc c'est des choses qui se font 3 fois par semaine dans des unités lourdes, en sachant qu'ils ont fermé l'unité d'autodialyse de Cré. Juste après nos greffes, on a été quelques-uns à être greffés au bout d'un moment et ils ont profité de nos greffes pour fermer cette unité. Voilà. Et pour revenir, je me suis un peu perdue, pour revenir sur le Belatacept, on avait ce traitement, sauf que ce traitement, il était remboursé s'il était fait à domicile. Et que l'hôpital, il n'était plus question qu'ils mettent un sou pour nous prendre en charge. Donc on a eu une espèce de... J'ai été éjectée de l'hôpital de jour. En fait, on a des hôpitaux de jour, c'est là où on fait nos traitements vitaux. On a du sang, on a du fer, on a... Et on rentre le matin, et au pire, quand on a fini nos traitements, on sort le soir. Des fois, pour moi, le traitement Bellatacet, c'est une demi-heure avec un quart d'heure où ils font attention à notre santé, à notre tension, pardon, et qu'il y a un peu une surveillance. Et du coup, ce traitement, du jour au lendemain, a été mis à domicile, et on a demandé à des infirmières à domicile de piquer dans des fistules. Ce qui était complètement interdit et non pris en charge par la sécurité sociale. Et du coup, j'ai eu un premier refus d'infirmières à domicile. Et on a fini par en trouver qui ont fait le travail hallucinant, tout en sachant qu'on est en train de... C'est en train de tomber, l'hôpital est en train de tomber. Ils nous préparent vraiment la fin des soins et au mieux des mises à domicile, quoi.
Ton sentiment, Fabienne, par rapport à ce qui t'arrive et au niveau du milieu hospitalier, est-ce que tu sembles être bien informée de ce que l'on te fait, de ce que l'on te prodigue? Est-ce que, ou alors c'est toi qui dois aller aux informations pour savoir?
Alors en fait, pendant très longtemps, j'ai eu une très grande confiance en mes soignants. Et surtout en ma spécialiste, qui est néphrologue à la tronche. Et cette confiance, je lui aurais... c'était acquis pour moi. Et j'ai vu se transformer l'hôpital complètement du jour au lendemain, où tout d'un coup, on aurait été... parce qu'on dénonçait le manque de soins, parce qu'on dénonçait la non-prise en charge, et après parce qu'on a dénoncé le pass sanitaire et la vaccination pratiquement obligatoire, parce qu'on arrive à un moment où on ne sait plus, on va le faire, on ne va pas le faire. On est extrêmement perdu. Moi, je suis tombée d'un truc où j'avais ouvert mes bras à ces gens. C'était la famille. Ça faisait pour certains 25 ans qu'ils me traitaient, que ce soit les médecins ou les infirmières. Et d'un autre monde où, je sais pas, on peut rentrer à l'hôpital avec n'importe quelle maladie grave. On est admis à l'hôpital. On peut avoir Ebola. On est admis à l'hôpital. C'est le travail de l'hôpital d'admettre les malades, en fait. Et du jour au lendemain, parce que oui, il y a une maladie mondiale. Et en même temps, ça sera pas la première. Et on n'a pas fini de voir se dégrader notre système. Le système d'aujourd'hui, parce qu'en fait l'effondrement, moi je le vois dans l'hôpital, mais je le vois dans tout le reste. En fait, c'est l'effondrement d'une civilisation, et là-bas, là dans cet effondrement, les premiers qui vont partir, c'est ceux-là, c'est ceux qui ont besoin de soins, quoi. Sans soins, ils ont pas de vie. Donc voilà, c'est même pas le besoin de partir en vacances, pas le besoin d'aller au cinéma ou d'aller boire un café au bar. Moi, c'est le besoin vital de pouvoir me faire soigner.
Il y a aussi cette condition du vaccin pour les employés qui pourraient se retrouver sans salaire du jour au lendemain.
Oui, ça on peut en parler pour les infirmiers, infirmières, etc. Ouais.
Mais ça va s'étendre, hein. Ouais. Ça commence par l'hôpital et puis après, partout où il y a du public qui vient, ne serait-ce que pour les cafés et restaurants aussi, ouais, c'est pareil.
On peut rebondir là-dessus.
Juste un mot à ajouter sur le Covid et la surmortalité qu'il a entraîné. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. L'INSEE a calculé pour l'année 2020 9% de surmortalité et quelques semaines plus tard a sorti un communiqué assez peu répercuté qui attribue la moitié de cette surmortalité à des défauts de soins. Parce que pendant le fort de la crise du corona, des centaines de milliers de patients n'ont pas eu accès aux soins. Ni au dépistage de cancer, ni à des soins réguliers pour des maladies chroniques. Et la moitié de la surmortalité. Donc en fait, bravo la gestion de la crise. Le corona, on a réussi à faire autant de morts en ne soignant pas les gens que l'effet du corona sur une population la plupart du temps fragile ou à l'alimentation mal équilibrée.
Et puis je reviens un peu sur le propos que tu donnais tout à l'heure par rapport aux études sur le vaccin. Un article du Canard indiquait hier que la France n'a consacré que 20 millions d'euros sur la recherche d'un vaccin contre le Covid par rapport aux États-Unis qui ont consacré 500 millions de dollars.
Alors,
Je crois qu'au niveau d'autres pays...
500 millions, c'est même bien plus. Alors,
pour non, les... non, je parle de 500 millions rien que pour l'étude de recherche de vaccins.
Oui. Hein. Disons que les vaccins français, pour le moment, c'est pas la fête. Il y a Sanofi qui annonce la sortie d'un vaccin, classique, à virus atténué ou à virus inactivé, je ne sais plus. Qui a l'air de fonctionner peut-être pas trop mal. Donc en tout cas avec une technologie on va dire routinée. Ça c'est autre chose que de jouer à l'apprenti sorcier comme le disait le Vidal, je le répète, une science balbutiante en fait en ce qui concerne les vaccins ARN messagers. L'autre problème évidemment, c'est... Ce qu'on est en train de se rendre compte pour le moment, quand on se balade un peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des tas de soignants qui sont en train de déposer leur démission, ce qui ne va pas arranger le fonctionnement de l'hôpital. Et ils posent leur démission parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas se faire vacciner, ne supportent pas la jonction, savent très bien, pour l'avoir vécu au plus près, que la gestion de la pandémie, elle a été mais juste catastrophique, bourrée de mensonges. On se rappelle les masques, les tests... Enfin, comment est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens-là? Et eux savent combien leur hôpital est démoli, année après année. Il semblerait que ces démissions soient refusées. En tout cas, le mouvement de l'aide de démission fait que le gouvernement, là, vient de donner un délai supplémentaire aux soignants pour se mettre en ordre de vaccination. Donc ça devait être le 15 septembre, ce sera le 15 octobre. Histoire d'un peu remettre le couvercle sur la marmite.
Oui, parce qu'il y a aussi cette rumeur d'un troisième vaccin pour la rentrée. Alors, donc cela va encore bouleverser le pass sanitaire de nouveau
alors,
pour
ça,
beaucoup de gens.
C'est justement un sujet que je voulais aborder. Je vais parler que pour le vaccin Pfizer. Et on va partir du cas d'Israël, qui est le pays le plus vacciné. 85% de taux de vaccination. Et une vaccination qui remonte pour l'essentiel des personnes vaccinées dans la période janvier-mars 2021. Au passage, comment est-ce qu'Israël a pu vacciner la quasi-totalité de sa population aussi vite? Eh bien, tout simplement, ils ont passé un accord avec Pfizer pour obtenir des doses prioritairement. Ils n'ont pas eu un prix de gros. Hein. Ils ont banqué quoi, pour acheter ça. En échange... de la fourniture à Pfizer des données médicales des patients. Donc là, la population israélienne, elle a vraiment servi, elle, de cobaye au profit du laboratoire et non pas après, ça se répercutera sur les autorités sanitaires, suivant ce que le labo fait avec les données, évidemment, mais au pur profit de Pfizer. Ce qu'on se rend compte, c'est que en Israël, ils sont confrontés à une recrudescence des cas. Par exemple, pour le moment, ils ont 240 personnes en soins critiques. Et quand on rapporte à la population, c'est un peu plus que nous, ou du même tonneau. Donc en fait, nous qui n'avons que peu vaccinés par rapport à eux, on est aujourd'hui dans la même situation qu'eux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le vaccin Pfizer perd de l'efficacité. C'est-à-dire que la production, le mouvement immunitaire s'effondre au bout d'un moment. Ils ont annoncé 94 ou 92, je ne sais plus, pourcent de couverture vaccinale après 15 jours de la deuxième injection. Ces chiffres doivent être corrects, je pense. Les autorités sanitaires israéliennes sont en train de voir que cette couverture vaccinale tombe à 75% au bout de 3 mois et à 16% au bout de 6 mois. Je ne sais pas si vous visualisez la courbe que ça peut donner. C'est-à-dire, vous êtes à 92. En 3 mois, vous perdez... 2 dixièmes, et dans les 3 mois suivants, vous en perdez 6. C'est pour ça qu'ils sont en train de rappeler les plus de 60 ans d'abord pour une troisième dose. Et en France, on envisage effectivement une troisième dose. Et alors là, on est prêt à tous les bricolages, parce qu'ils sont en train d'annoncer que la troisième dose pourrait être en fait du Sanofi ou du Moderna. Sanofi quand il sortira, et Moderna pour le moment. On voit bien aussi la bataille commerciale, parce que quand cette étude israélienne est sortie, il n'a pas fallu une semaine pour que Moderna sorte à communiquer pour dire « Nous, notre vaccin, il est efficace encore à 93% après 6 mois ». Donc on voit bien la bataille de conquête de marché entre tous ces labos et se réjouir de la chute de protection vaccinale de son concurrent pour pouvoir poser ses propres chiffres sur la table. Là, il y a l'OMS qui gueule. L'OMS est en train de pousser des cris parce qu'en fait, ils sont en train de dire ces troisième doses-là, il faut absolument les envoyer dans les pays où la couverture vaccinale est très faible. Pour la raison que, parce que l'OMS est un peu les seuls à avoir une vision globale, de par leur nature même, hein, Organisation Mondiale de la Santé, et ils savent très bien, ils savent très bien qu'en fait, c'est pas la peine de vacciner 100% de la population d'un pays si dans le pays à 3000 km, il n'y a que 10% de la population vaccinée et que les échanges internationaux font qu'on va avoir un joli bouillon de culture et de recombinaison des variants. Il aurait fallu en fait vacciner l'intégralité de la population mondiale en 6 ou 8 semaines. Si on avait pu faire ça, avec un vaccin efficace et sans effet secondaire, ça aurait été, mais ce n'est pas possible. Et c'est là, en fait, c'est qu'on est dans un truc de flou, de jeu, en ignorant la volonté du virus de rester vivant et de continuer sa colonisation des organismes, parce que c'est sa raison d'être, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, en prêtant le flanc à l'émergence de variants, de recombinaisons. Alors pour le moment, on parle beaucoup du variant Delta, qui est majoritaire en Israël, qui est majoritaire en France, en Angleterre. On remarque aussi, assez curieusement, que ce sont les pays les mieux vaccinés, même si le variant est parti d'Inde, qui sont les plus touchés dans leur système de santé par le variant Delta, parce qu'en fait, ils ont vacciné tôt et que la protection vaccinale s'est effondrée et que le variant Delta échappe un petit peu, pas trop, hein. Il est bien contré par le vaccin, mais un petit peu. Par contre, là, on va bientôt en parler, à mon avis. Il y a au Pérou un variant qui est devenu majoritaire, qui concerne 80% des nouvelles contaminations décelées, qui s'appelle le variant Lambda, et qui, lui, est complètement échappant à la protection vaccinale de tous les vaccins construits pour ce qu'on va appeler le virus souche, quoi. Enfin, c'est pas le bon mot, mais la souche initiale, quoi, celle qui nous est rentrée dedans fin 2019, début 2020. Et là, on va avoir des problèmes.
Une question, je ne sais pas si vous pourriez répondre. Quelle est la part de population qui est complètement insensible au Covid? Vous le savez, ça? Est-ce qu'il y a des chiffres établis là-dessus?
Tout ce qu'on sait, c'est ce que nous a dit ce professeur de gastro-entérologie au mois d'octobre 2020. C'est qu'après avoir pris contact, c'est du haut niveau, hein, c'est des grands spécialistes mondiaux de la maladie de Crohn, quoi. Après avoir pris contact avec notamment des collègues chinois et italiens, qui étaient les deux premiers pays touchés, hein, l'Italie a été le premier pays touché en Europe et la Chine est le foyer d'origine du virus.
Bien qu'on n'ait pas des chiffres certifiés de la part de la Chine aussi.
Non, mais ça c'est de la vaste blague. Leurs 3000 morts, c'est à mourir de rire, quoi.
Ou 80 000 cas.
Ouais, non, c'est pas possible. C'est juste impossible, même avec un confinement dur.
On revient sur l'Italie. Ouais.
Et donc, après avoir pris contact avec d'autres gastro-entérologues ou rhumatologues, ils se sont rendus compte qu'ils avaient, en octobre, donc ça a pu changer, il peut y en avoir quelques-uns, mais zéro cas de patients covidés ayant un traitement de longue durée sous Humira. Humira, c'est un anti-TNF qui est utilisé contre la maladie de Crohn pour prévenir les poussées inflammatoires et aussi dans beaucoup de types de polyarthrite. C'est un cousin du Remicade qui est quand même beaucoup plus employé. Pareil, le Remicade offre une protection, une immunité intéressante, mais le problème, ça, il n'en parle pas.
On pourrait peut-être mettre une petite parenthèse justement sur ce que provoque le virus du Covid dans le corps humain, c'est-à-dire un déclenchement d'inflammation. Et ce sont celles-ci qui sont létales pour la personne.
Il y a deux grandes causes, deux grands effets du SARS-CoV-2 qui tue. Le premier, c'est le choc cytokinique, c'est-à-dire une surréaction du système immunitaire humoral. Donc le système immunitaire humoral, c'est l'extracellulaire, quoi. C'est le général, en fait. Celui qui est lié au lymphocyte T. Lymphocyte B, pardon. Et la deuxième cause de mortalité, ce sont des microthromboses pulmonaires. Ce qui explique qu'on doit mettre la personne sous respirateur parce qu'en fait, elle n'arrive plus à avoir suffisamment d'oxygène par l'action de ses poumons qui sont abîmés par les microthromboses. Voilà, ça c'est vraiment les deux grands effets du SARS-CoV et les deux grandes causes de mortalité.
Fabienne, oui.
Ouais, moi, je voudrais revenir sur quand la crise a éclaté, sur nos soignants, évidemment, sur ce qui se passait à l'hôpital. Donc, en fait, au mois de mars, j'ai fait une septicémie du rein, une septicémie tout court et une infection du rein. Donc, je me suis retrouvée aux urgences en plein début de la crise. Donc du coup j'ai vu exactement ce qui s'y passait et j'ai vu l'état des urgences et l'état de l'hôpital et est-ce que donc déjà j'ai été amenée là dans des conditions assez compliquées puisque le SAMU n'a pas voulu se déplacer parce qu'il faut savoir que nous les patients du DIWA quel que soit notre état on doit passer par le protocole, c'est de nous passer à DI. Ce que je refuse à chaque fois parce que dit ils peuvent pas prendre en charge des choses aussi graves et que l'important c'est d'arriver le plus vite possible à l'hôpital qui est capable de nous prendre en charge. Donc le temps arrive où j'arrive aux urgences, mis dans un VSL dans un état critique et là en fait j'ai vomi dans mon masque, j'ai un masque, j'en ai qu'un. J'ai vomi dans mon masque et je suis mis dans les couloirs. En fait, il faut savoir que nous, les greffés, on est ce qu'on appelle immunodéprimés. On a des médicaments qui servent à descendre nos défenses immunitaires au maximum. Pour ça, je viendrai sur... Donc, en fait, on s'est retrouvés dans une situation, moi, patiente, au milieu des patients Covid. On ne savait pas à quoi on avait affaire. Là-bas, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants, il n'y avait absolument pas de matériel. Et c'est pour ça la défiance que je comprends des soignants en fait, qui ne veulent pas se faire vacciner, parce qu'en en fait, on les a vus faire, on les a vus tout détruire. Moi, j'ai vu ça pendant 15 ans. Et après, arriver à un stade en fait, où on ne peut pas prendre en charge une maladie en France... Donc, en fait, c'est pour revenir sur la défiance qu'on a, nous, patients et aussi soignants, sur le fait qu'ils ne veulent pas prendre en charge les gens comme nous, ils ne veulent pas avoir des patients qui, et des soignants qui seraient rebelles à leur société de surveillance, en fait. Et je voudrais revenir sur le choc cyclothymique, pardon. En fait, ce choc-là, il est fait quand on a des défenses immunitaires. Il ne peut pas se réaliser. En fait, c'est les défenses immunitaires qui se mettent en branle et qui attaquent le virus. Nous, en l'occurrence, on n'en a pas. On n'a pas de défense. Alors, on n'est pas sous une bulle, mais on y est presque. Et faire attention à nous laver les mains plusieurs fois par jour pour ne pas attraper l'une ou l'autre maladie qui pourrait nous envoyer aux urgences, en fait, c'est des choses qu'on a pris en compte. Moi, toute ma vie, quoi, j'ai pris en compte. Quoi. C'est ça quoi. Donc on peut pas surréagir. Donc ça nous permettrait de ne pas avoir un Covid très grave. On peut être porteur, mais et moi je vois bien parce que j'ai passé plus de 2 ans avec cette maladie à l'hôpital et puis un peu partout et je n'ai pas été malade de cette maladie. J'ai même eu mon homme et mon gamin malades et moi pas malade. Donc en fait, moi, j'ai cette confiance en ça, je suis immunisée, quoi. Immunisée à une forme grave, voilà.
Votre sentiment, sans, en toute objectivité, comment vous situez-vous par rapport à ce contexte, vous en tant que personne soignée, comment vous sentez-vous au niveau de la société aujourd'hui?
Moi, en fait, je me sens complètement laissée sur le trottoir. Il y a vraiment un sentiment de colère et en fait on comprend pas. On comprend pas comment un pays comme la France peut en arriver là. On les a vus organiser leur système depuis de nombreuses années en fait en pointant du doigt les malades qui coûteraient trop cher à la société. Certains d'entre nous travaillent et d'autres ont ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé. Parce qu'on est réellement malade et qu'on ne peut pas travailler. Mais ce système-là, ils l'ont cassé. Ils l'ont cassé sans, comme ça, sans l'air de rien. Et puis, on s'est battu dans la rue. On a dit, vous êtes en train de tout casser. Vous êtes en train de nous assassiner, en fait. Et ils ont dit, non, c'est pas vrai. Ils ont envoyé les gendarmes. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une profession qui n'a pas l'obligation du pass sanitaire aujourd'hui en France. Et ça, ça nous met dans une colère aussi qui est vraiment énorme parce que, en fait, c'est la répression, c'est la police qui, elle, n'a pas à avoir une passe sanitaire. Donc, c'est-à-dire ils peuvent contrôler des gens qu'on oblige pour avoir accès à l'hôpital de leur passe sanitaire tout en n'ayant pas de passe sanitaire eux-mêmes. En fait, c'est injustice qui est une injustice de tous les jours et qui est une injustice aujourd'hui dans la société qui... Enfin, on entendait bien, vous coûtez trop cher, allez, arrêtez de pleurer. On pleurait pas, on a dénoncé extrêmement fort tout ce qui se passait à l'hôpital et toute la destruction du service public. Et aujourd'hui, on est arrivé au bout. Moi, personnellement, je sais plus comment je peux lutter parce que ils sont en train de nous tuer réellement. Comment lutter pour nos libertés quand, en fait, on n'a plus même la liberté d'être soigné, de rentrer dans nos hôpitaux. Ils ont tout privatisé, mais l'hôpital, c'était l'hôpital. Et là, c'est fait. Alors, on est perdu. Moi, je suis très perdu. Je suis très en colère. Et je vois pas. Il faudrait être dans la rue, par millions. On n'a plus que ça. Même si aujourd'hui, j'ai du mal à y croire, parce que de toute façon, au niveau constitutionnel, ça passe. C'est incroyable. Moi, hier, j'ai repris un coup sur la tête en me disant, ils ne vont pas le passer, ce n'est pas possible, ils ne vont pas y arriver. Et si, ils l'ont passé, quoi. Donc, il faut... On voit l'État est en train de nous tuer. L'État, c'est pas notre ami. L'État est un ensemencier de comment ça s'appelle de pour diviser la population. Ils ont toujours fait ça. Ils nous ont divisés. Aujourd'hui, on est arrivé. Enfin, il va avoir les non vaccinés et les vaccinés. Et aujourd'hui, cette violence engendrée par tout ça, par l'État, en fait. C'est devenu insupportable. On est à bout de force, vraiment, à bout de force.
Ouais, j'ai lu il y a quelque temps un bout de texte de Madison, à des, on va appeler ça indépendantistes, parce que c'était pas une révolution des États-Unis au XVIIIe siècle. Et Madison, on connaît Madison Square Garden. C'était un perso de cette époque-là. Qui disait, un peu à la suite de Machiavel, qu'il est indispensable de diviser la société en sectes, en groupes, pour protéger les intérêts de la minorité, c'est-à-dire de la classe possédante, quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. On n'est plus dans un état de droit. Par exemple, sur la possibilité qui est offerte à un des deux parents de décider de la vaccination de l'enfant... En fait, ça, c'est une rupture du principe de l'autorité parentale partagée. Et ça n'émeut personne. Ça passe. Ils sont capables de voter des trucs comme ça. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte qu'en fait, ils brisent les principes fondamentaux du droit et de ce qui doit être l'état de droit. Or, l'état de droit, puisque je ne considère pas qu'on soit dans une démocratie, on est dans une république, ce n'est pas pareil, avec une classe. Autoreproduite qui tient les leviers du pouvoir économique ou politique. L'état de droit, c'est quand même ce qui nous protège, nous, qui n'avons pas accès à ces statuts, des dérives légales ou extra-légales. Et bien ça, en fait, ils sont en train de s'asseoir dessus complètement. Juste avec ce petit exemple de l'autorité parentale partagée, qui est écrite partout, qui fait partie de la jurisprudence partout, sauf décision de justice, où on va dire, vous, madame ou monsieur, c'est pas possible que vous vous occupiez de vos gamins, c'est l'autre qui va le faire. Mais en dehors de ça, là, il y a une rupture. Et là, ça va diviser des familles. Qu'elles soient séparées ou qu'elles vivent ensemble. Et ça reste sur le même principe de division perpétuelle de la société, de la fragmentation. Et moi, je suis super en colère et... Et pareil que Fab, je cherche la porte, je sais pas. Et pour notre cas individuel, perso, quoi, je sais pas ce qu'on va faire.
Et pour tous les autres.
Et pour
quoi.
Tout le reste. Parce qu'en fait, l'hôpital, c'est le marqueur. Mais il y a tout qui part en couille. Quand dans quelques années, on va ajouter à ça une crise énergétique, parce que les productions de pétrole devraient... L'offre de pétrole devrait diminuer vers 2024-2025. Mais ça va être un merdier, mais phénoménal. Et on aura... Il est urgent qu'on construise des solidarités qui vont nous permettre de reprendre les choses en main, parce qu'on en est très très loin.
À vos yeux, quelle confiance vous auriez pour une personnalité, par exemple, ou un personnage, est-ce que ça existe pour vous aujourd'hui?
Quand tu dis perso, tu penses à un perso politique ou, ou à un chanteur ou
quelqu'un qui détiendrait une certaine vérité sur le Covid. Moi, je pense que personne ne détient la vérité et que pour l'instant, je crois qu'il n'y a que de l'apprenti sorcellerie. Quoi.
Ouais, en fait, la vérité, elle doit émerger d'une prise en charge collective des problèmes sanitaires. Et à ce moment-là, des pratiques peuvent devenir vraies dans un milieu donné.
Est-ce que tu peux étendre un peu ce protocole, justement?
C'est-à-dire qu'en fait, quand le Covid a commencé, et vu l'état de santé de Fabienne, en fait, nous, on a joué le jeu à fond, parce qu'on ignorait tout de ce truc-là. C'est-à-dire, on se lavait les mains, on s'est auto-confiné avant même que le confinement ne soit prononcé, on a réduit nos sorties, on s'est monté prudent dans les contacts, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. On lavait les pots de yaourt quand on les ramenait à la maison des courses, tu vois, on les passait au gel ou au savon. Donc on a vraiment... Tu vois, quand on a la liberté de choisir ces pratiques de protection contre la maladie, de les construire, on peut être efficace. Quand on nous les bombarde sur la gueule avec en plus des motivations cachées, économiques notamment, de division politique, enfin tu vois, de stratégie politique de division, qui font incontestablement partie du panel de la gestion sanitaire de la crise Covid avec les pratiques sécuritaires, ultra-sécuritaires et de contrôle social, non, en fait. C'est normal de ne pas collaborer à ça. Ça ne t'appartient pas, tu en es dépossédé. Tu es un troupeau de moutons, en fait. Quand un berger ou un éleveur vaccine ses brebis, il ne leur demande pas leur avis. Eh ben, en fait, on est en train de subir la même chose. Et au niveau de l'Assemblée, qu'est-ce qu'on a? On a le PS qui lui est en train de militer pour la vaccination obligatoire. Allez, vas-y, je t'en rajoute une couche, quoi. Comme ça, on est bien sûr qu'à la prochaine élection, si c'est comme ça qu'il sort, on aura droit à la vaccination obligatoire si Macron n'a pas réussi à la mettre en place avant. En fait, pour moi, déjà, celui qui a la prétention de diriger les choses, il y a déjà un sérieux problème, quoi. Il y a déjà un sérieux problème. Là, pour le moment, les décisions, ils les prennent à 15 au Conseil de défense. L'état d'urgence permet de passer sur tous les contre-pouvoirs, sur tous les mécanismes de contrôle des prises de décision, au profit d'un petit groupe de personnes parmi lesquelles des généraux, le directeur de la DGSE, je ne sais plus si elle s'appelle encore comme ça, ce qui groupe les renseignements territoriaux, des gens de l'état-major, Olivier Véran, Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Ces gens-là, ils se mettent à 15 dans une pièce et ils décident tout seuls, sans aucun contrôle sur et leurs sources d'information et la manière dont ils les traitent et les alternatives qui pourraient être mises en place. Il n'y a que de chi. Ça ne se discute pas. On est comme des brebis qui passons à la vaccination. D'ailleurs, les vaccins ARN ont d'abord été testés sur des animaux, non pas dans le cadre d'expériences particulières, mais pour des zoonoses. Et en fait, ça ne marche pas très bien non plus.
Si je peux dire un mot là-dessus, moi je crois pas aux partis politiques, je crois pas que j'y ai jamais cru, et encore plus aujourd'hui, je crois. J'ai vu la répression, j'ai vu petite, j'ai compris que si on était différent, en fait, on était maté par une classe, de la classe de la bourgeoisie, de la classe de ces gens qui croient tout mieux que nous. Moi, j'ai pas confiance que ça va se régler dans les urnes. Je peux pas y croire parce que quoi qu'il arrive, on sera toujours récupéré. Moi, j'ai une toute petite croyance, et après avoir passé 3 ans dans la rue presque tous les samedis, j'ai encore une toute petite croyance au peuple, au vrai peuple, à celui qui est déterminé et qui a compris quelle était notre lutte, quoi. Pourquoi il fallait abattre ces gens avant qu'ils nous abattent, en fait. Après, moi, ce que je vois là-dedans, c'est bien sûr, c'est pas par les urnes que ça va se régler. De toute façon, des urnes, on ne sait même pas si on a un avenir de diurne. Entre Macron et le Front National, voilà, il faut savoir que dans la rue, tout ça se prépare. L'extrême droite est extrêmement présente. Et il faut savoir que les gens comme nous qui se sont battus, comme moi, gilets jaunes et après noir et rouge, sur ma couleur à moi, je suis une anarchiste et je crois en ça. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est si on ne prend pas ce qu'ils nous ont pris, si on ne le reprend pas, on aura tout perdu. Aujourd'hui, on est sur un moment où les gens, il va falloir qu'ils choisissent. Il va falloir choisir réellement parce que ça, c'est extrêmement grave. C'est grave comme une guerre.
Et ce qui me paraît assez évident, c'est que là, il faut revenir à la base du truc. C'est qu'en fait, il faut prendre conscience que le niveau de vie qu'on a eu en France, même pour les couches les plus défavorisées, dans l'immédiate après-guerre, et par exemple la conquête de la sécurité sociale, ça n'était possible en fait que pour une seule chose, pas spécialement parce que le Parti communiste faisait 28%, qu'il y avait des armes partout, etc. Non, c'est le déferlement de pétrole et les énormes gains de productivité qui l'ont accompagné. Ça, c'est ça le fait physique qui a permis l'émergence de classes moyennes et de tirer un peu toute la population vers le haut, de leur offrir un accès à la santé, à l'éducation, aux congés payés, enfin, tu vois. OK. Si on considère qu'en fait, on est rentré depuis 2006 dans une crise de l'énergie, époque où on a passé le pic de pétrole conventionnel, qui a été remplacé en partie par les pétroles de schiste et les gaz et les sables bitumineux, mais qui sont en train de se tasser, pendant que la production de pétrole conventionnel continue à chuter. Crise énergétique. C'est-à-dire, en fait, ils ne peuvent plus, la classe dominante, se permettre d'entretenir aussi bien une grande masse de gens qui, en plus, ne produisent plus, puisqu'ils sont remplacés par des robots. Donc en fait, on n'est même plus producteur de richesses, quoi. On n'a plus accès à des outils productifs où on maîtrise le travail. Non, des robots partout, quoi. Et ça peut être un premier coup de semence sur une marginalisation extrême d'une grosse couche de la population, non pas 30 000 SDF ou 300 000 mal logés ou non. Sur des centaines de milliers, des millions de personnes qui ne sont plus intéressants du point de vue de l'appareil productif. Et qui, en plus, ont le toupet de se déplacer en bagnole pour partir en vacances ou aller voir leurs potes et de consommer cette énergie si précieuse dont ils ont besoin pour aller explorer Mars ou je ne sais pas trop quoi. Et je pense qu'on est en train de se diriger vers une grosse réduction de la population mondiale pour les 20-30 années qui viennent, quoi.
Je voulais juste finir sur quelque chose. Là, en fait, les gens comme nous, on est surveillés comme le lait sur le feu. Ils laissent aller parce que l'État, c'est les copains des fachos, quoi. C'est les copains de l'extrême droite, quoi. L'État et l'extrême droite, ça fait longtemps que ça bouffe ensemble. Ça fait longtemps que ça. Donc, faut savoir que les gens qui se sont battus pour le service public, comme moi, je l'ai fait pour nos droits, pour nos libertés, pour la retraite, etc., etc. On s'est retrouvé dans des situations où on est limite traité comme des terroristes. Donc non seulement on a des problèmes avec nos soins pour nos prises en charge vitales, mais en plus on est surveillé et pointé du doigt comme si on était les pires monstres de la planète. Pendant que l'État et l'extrême droite mangent ensemble et font l'avenir de 2022. Et nous prévoit un monde tout à fait ségrégationniste où, en fait, il y aura deux parties du monde, quoi. Et c'est insupportable, en fait. Ça devient insupportable.
Voilà, on pourrait passer encore beaucoup de temps à parler de ce problème du pass sanitaire et du vaccin contre le SRAS-2. Par contre, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, malgré tout, et Fabienne et Sébastien. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à vous deux.
Ben, merci à toi.
Merci à toi de nous avoir accueillis et bon courage à tous pour ce monde, quoi.
Ouais, bon courage, ouais.
Au revoir.
Au revoir, merci. Au revoir.